Are you racing or watching?
La dispute. Art plastique. Arne Laporte.
Cette émission est préparée par Aïssat Undoy, Lucille Como, Boris Pino et Sarah Dion. Prise de son assurée ce soir par Théo Gomard. Réalisation Guillaume Baldi. Autour de moi, Anaël Pigeat, Stéphane Coréard et Florian Guettet pour parler ensemble de Picasso Bleu et Rose au musée d'Orsay. Mathieu Pernault, La Santé, c'est au 104 Paris. Le prix Marcel Duchamp au centre Pompidou. Et puis un coup de cœur ce soir délivré par Stéphane Coréard pour Jean-Michel Alberola. Toujours des cadeaux à gagner grâce au jeu de dispute ce soir, des DVD du film Una Questione Privata de Paolo et Vittorio Taviani, distribué par Pyramide. Encore une exposition Picasso. Enfin, une exposition Picasso pourra peut-être, est-ce qu'on pourra dire ça tout à l'heure, puisque celle que l'on peut voir au musée d'Orsay, qui est associée au musée national Picasso Paris, mais aussi avec les collaborations de la Fondation Beyeler pour la construire, nous donne peut-être enfin belle matière à dispute. On le saura à l'issue de celle-ci, mais comme son titre l'indique, l'exposition est consacrée aux périodes bleues et roses de l'artiste, réunie des pièces des années 1900 à 1906, une période qui, curieusement, si j'en crois en tout cas, les éléments de communication n'avaient jamais jusqu'à ce jour été traités dans son ensemble par un musée français. Le commissaire général de l'exposition, c'est Laurent Lebon, et les commissaires en sont Claire Bernardi, Stéphanie Molins et Emilia Filippo.
Tiens, l'année passée, une autre fois, un homme m'a bien pigeonné. Il s'appelait Pablo, faut avouer qu'il faisait de bien jolis tableaux. Je posais pourtant, il ne peignait que des cubes en me détaillant. Moi ça m'a vexé, j'ai dit bye bye, je voulais pas être complexé.
Pauvre Mireille, tu vois, c'est pas du gâteau.
Les critiques de la dispute sèchent. Je vais proposer à Sarah Dion qu'on change la question du jeu de la dispute ce soir. Savoir qui chante cette chanson en hommage à Pablo Picasso. Il y a son prénom qui est dit dans la chanson. Vous n'allez même pas
être Mireille.
Mireille Darc. Eh oui. Vous avez bien fait de venir. Hein, et vous faites bien d'être à l'écoute. Vous découvrez peut-être cette chanson, le bon numéro. Est-ce que c'est le bon numéro que cette exposition Picasso au musée d'Orsay, première à répondre, c'est Anaëlle Pigeat.
Oh oui, c'est le bon numéro. C'est une exposition
mais
très...
Pourquoi
mais parce que
pourquoi
c'est...
est-ce qu'on en voit tant, est-ce qu'on s'en plaint et que tout d'un coup, c'est... on verra s'il y a une unanimité ce soir, mais tout d'un coup, beaucoup de gens considèrent que celle-ci, enfin... réussi.
C'est une exposition qui est très exceptionnelle, d'abord par la qualité des prêts qui ont été rassemblés. Il y a des œuvres qui viennent de très nombreux musées du monde, ce sont des œuvres fragiles et ce sont des œuvres rares. Donc il y a par exemple les pierreuses qui sont très rarement prêtées, qui viennent de Cleveland si je ne me trompe pas. Il y a vraiment des prêts exceptionnels. Il n'y a guère que deux tableaux qui manquent dans l'exposition parce que ce sont des tableaux qui ne voyagent pas. C'est la famille de saltimbanques et l'acteur qui sont aux États-Unis. Donc ça c'est la première raison. Ce sont aussi des œuvres qui sont très chères, en témoigne la vente récente de la fillette au panier de fleurs qui a été montrée à Paris dans une exposition qui a été en tour, enfin qui a fait une tournée plutôt.
On tour.
qui a fait une tournée dans le monde avant d'être vendue chez Christie's et qui a été adjugée 115 millions de dollars, qui est une œuvre qui était précédemment dans la collection Rockefeller. C'est une exposition aussi très exceptionnelle parce que elle renouvelle réellement la vision qu'on peut avoir de ces deux périodes, bleu et rose, du début de l'œuvre de Picasso, et ce que montre l'exposition, c'est en fait que ce ne sont pas deux périodes. La première œuvre de l'exposition en témoigne, puisque elle mélange, on voit tout de suite que le bleu et le rose sont mêlés dans cette œuvre. C'est la femme à l'éventail qui est comme ça une sorte de geste d'annonciation. En fait, Picasso lui-même, à cette époque-là, date peu ses œuvres.
C'est tout jeune homme.
Jeune homme, hein. Voilà, exactement.
Ça commence quoi, 18-19 ans,
exactement,
jusqu'à 25.
Donc
quoi.
Les historiens sont un peu en peine de mettre ses œuvres dans l'ordre. Et puis, on se rend compte que finalement, les scansions qu'on a l'habitude de faire entre ces deux périodes sont beaucoup plus illusoires que ce qu'il n'y paraît. Les grandes qualités de l'exposition aussi, c'est de donner à percevoir le contexte dans lequel ces œuvres ont été montrées. Picasso lui-même a mêlé ces époques, par exemple dans l'exposition de 1932, qui est évoquée au début de l'exposition, et on voit ces tableaux dont il avait conçu lui-même l'accrochage, et on voit ces tableaux qui se télescopent dans son esprit à lui.
Mais vous laissez quelques raisons à vos camarades.
Voilà, avant je laisse quelques raisons, mais j'en ai encore beaucoup d'autres, si
la
vous
parole.
Voulez.
Est-ce que ça a eu l'heure de plaire à Stéphane Correa, cette exposition Picasso, bleu et rose à Orsay?
Alors, ça dépend si je vous réponds au premier ou au second degré.
Vous allez faire les deux. Vous commencez par lequel?
Je vais faire absolument les deux. Par le premier, évidemment. Vous l'avez dit, c'est vrai, on parle d'émergence beaucoup en ce moment, comme si on redécouvrait l'émergence. Tous ces tableaux ont été peints quand Picasso avait entre 18 et 25 ans. Ce qui effectivement est bluffant, puisque les tableaux sont sublimes, forcément sublimes, j'aurais envie de dire, pour paraphraser Marguerite Duras parlant d'un monstre, parce qu'effectivement c'est déjà le monstre de peinture qu'il aspire à devenir dès cet âge-là, et c'est visible dès les premiers tableaux, dès ce fameux autoportrait Yo Picasso, qui est un geste d'affirmation absolument incroyable, de défi, des signatures hypertrophiées, puisque les œuvres sont peut-être pas datées, mais elles sont très signées au début, hein, les signatures prennent la moitié du tableau, on sent vraiment qu'il veut s'affirmer, hein, il est là, et donc ces tableaux sublimes, il y en a beaucoup, puisque là on parle donc de 5 ans de création, 300 œuvres, hein, ça fait plus d'une par semaine, donc on a l'habitude, parfois on fait toute une exposition sur une année de Picasso, là c'est 300 œuvres sur 5 ans, donc effectivement, peut-être elle n'avait jamais été faite comme ça. On voit tout de suite que, aussi bien de la part de Picasso d'ailleurs que des commissaires, il y a une volonté de tuer le match d'emblée. Et en ça, l'exposition, pour moi, est peut-être justement un peu trop redondante, enfin, une exposition monstrueuse sur ce monstre, on va dire, sur cette boulimie, cet ogre qu'est Picasso. Et on voit dès le départ, moi, ce que j'ai trouvé la vraie nouveauté et la vraie bonne idée de cette exposition, c'est qu'elle soit à Orsay. Le musée d'Orsay, c'est le musée qui correspond chronologiquement à cette période, mais c'est pas là où il y a les tableaux de Picasso à Paris. Ils sont au musée Picasso ou au centre Pompidou. Là, ils sont au musée d'Orsay. Et quand on sort, je vous incite à faire l'expérience comme je l'ai faite, et qu'on va voir les tableaux de Van Gogh, de Gauguin, de Toulouse-Lautrec, etc., qui ont tellement marqué Picasso, ben c'est quasiment des parodies des œuvres de Picasso. C'est-à-dire que là, d'un coup, de réunir dans le même lieu les maîtres et l'élève, et finalement, évidemment, Van Gogh, Toulouse-Lautrec, etc., c'était quand même 20 ans avant. Et moi, c'est ça que j'ai trouvé passionnant, et c'est ça qui a renouvelé ma vision de ces périodes de Picasso.
Florian Guettet, enfin, pour conclure ce tour de table.
Je rejoindrai l'avis de mes camarades sur la qualité de la production. C'est vrai que c'est assez impressionnant de voir tous ces tableaux. On sait qu'il en peint 3 par jour à ce moment-là. Donc il est vraiment dans une sorte de boulimie picturale, déjà très affirmée. On avait vu ça dans l'expo au chef-d'œuvre, que très tôt, finalement à 16 ans, il avait déjà bien en main son art. Donc là, on voit un Picasso, finalement, certes, qui cherche à s'affirmer, mais dans une forme aussi d'humilité par rapport à ce qu'on va connaître de lui, en fait. Hein, cette sorte d'exubérance de la période des Minotaures, etc. Donc là, il est dans quelque chose de beaucoup plus respectueux de son art. On voit qu'il a envie de s'inscrire dans l'histoire. Il y a ses références effectivement au moderne, Van Gogh, Toulouse-Lautrec, Cézanne, Gauguin même, mais aussi à l'art classique. Hein, puisque c'est l'époque aussi où, comme il est entre Paris et Barcelone, il voit des grandes expositions comme Ingres qui va beaucoup le marquer. Et on voit bien ça dans la fin de l'exposition. Alors c'est vrai que le parti pris, c'est un peu un parti pris d'historien. C'est-à-dire que je trouve que c'est vraiment une question. Est-ce que finalement cette distinction entre période bleue, période qui date, hein, qui est contemporaine hein, de ça, parce que c'était Cocteau, je crois, qui est un critique que Picasso a peint, et dont le portrait est d'ailleurs dans l'exposition, qui a fait cette distinction-là, et on se rend compte que finalement, il n'y a pas autant de césures qu'on le croit. Néanmoins, Je trouve que l'exposition est très très compartimentée, c'est-à-dire qu'on a, je crois, 16 salles assez réduites. Enfin, ce sont des salles qui ne sont pas très très grandes. Donc du coup, ça ne circule pas autant que ça pourrait circuler dans l'ordre des idées. Moi, c'est vrai qu'en plus, il y a beaucoup de monde qui vient à cette exposition, donc j'ai trouvé que des fois, c'était un petit peu encombré. On va dire.
Faudra aller à Beyeler où elle se poursuivra.
Oui.
L'exposition. Il y aura une autre déclinaison.
Ouais, et puis je crois qu'il y a que 80 œuvres. Alors que là, on est sur 300.
Il n'y aura que les peintures.
Il n'y aura pas les œuvres papier dont on va parler, bien sûr.
Mais il y aura
plus de place.
Oui, mais par contre, on voit bien une idée de progression logique et chronologique de cette période-là. Alors, on appelle les périodes bleues et roses, mais c'est vrai que moi, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de verts, en fait. Oui. Beaucoup de verts qui étaient très, très significatifs, puisqu'il y a le vert du portrait d'Ambroise Vollard, il y a le vert du fameux portrait de Karl, enfin, des trois portraits sur son lit de mort de Karl Cassaguémas, qui était cet ami de Picasso qui s'est suicidé et qui aurait donné, selon les propres mots de Picasso en 65, qui aurait été moteur pour donner cette forme de tristesse et de mélancolie que l'on connaît dans la période bleue, et qui en fait démarre sur du vert. Quoi. Donc on est déjà dans une sorte de brouillage des catégories sur cette répartition chromatique un petit peu facile des historiens. Donc ça, c'était vraiment appréciable. Et puis de voir aussi comment il n'y a pas d'un côté la mort, c'est-à-dire la tristesse de la première période et puis la vie des saltimbanques dans la deuxième. Au contraire, en fait, il y a un aller-retour constant entre ça. Finalement, les saltimbanques, les gens du cirque, etc., sont des gens qui jouent avec la mort. Et on voit ça très très vite. Et puis le basculement entre les deux, il se fait autour d'un tableau pivot qui est un vrai chef-d'œuvre qui s'appelle La Vie, qui est en fait sous lequel il y a en fait une autre œuvre qui était les derniers moments, les derniers instants, dernier moment, je crois, qui était l'œuvre qu'il avait présenté à l'Expo Universelle de 1900 quand il est arrivé à Paris. Donc elle est vraiment très 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 importante cette œuvre-là. Elle permet vraiment d'articuler les deux, mais ça permet pas de dire que l'on passe de la mort à la vie. Au contraire, je pense qu'il y a de la mort et de la vie dans les deux périodes.
Mais ce qui est passionnant, c'est qu'il y a cette incertitude du fait de datation approximative. On peut du coup continuer à spéculer, même si c'est effectivement une exposition très sérieuse du point de vue historique, on peut se dire que le même jour, Picasso peint une toile dominante bleue, une toile dominante rose. On n'en sait rien parce que ce qu'on voit surtout, c'est ce que vous avez déjà dit tous trois, c'est quelqu'un qui cherche, qui recherche, qui à la fois revisite les aînés, mais qui aussi est en train de chercher sa voix, puisque si l'exposition s'arrête, c'est qu'elle s'arrête juste avant les Demoiselles d'Avignon. Donc effectivement, et là, il passerait dans un autre musée, qui serait le musée d'art moderne, si cette toile venait encore un jour dans notre pays. C'est ce qui n'est pas le cas. Naël Pigeat.
Oui, d'ailleurs, Picasso lui-même dit à Thériade en 1932 combien de fois j'avais plus de bleu
oui,
et j'ai
pris
du rose.
Oui.
Ce qui est intéressant dans l'exposition aussi, c'est qu'on voit vraiment dans ces premières années, qui sont vraiment donc celles d'un tout jeune homme, qu'on le disait, un socle de tout ce qui va devenir l'essentiel de l'œuvre de Picasso après, enfin, en tout cas des éléments essentiels. Stéphane parlait tout à l'heure de sa signature. C'est aussi le moment où sa signature se transforme comme une sorte de deuxième naissance de Pablo Ruiz à Picasso, et qui est le Picasso qu'on connaît. Il y a un certain nombre de thèmes qui apparaissent là et qui vont être filés dans toute son œuvre jusqu'à sa fin, en particulier le thème du cirque, la présence des arlequins, des saltimbanques, des animaux du cirque, du chien et du cheval qui sont des passeurs, comme Arlequin est le personnage qui est un initié, qui passe de la vie à la mort lui aussi, le thème du carnaval, des renversements, de tout est possible, du moment où tout est possible, sont des sujets qu'on retrouvera dans toutes ces gravures, jusqu'à ces derniers tableaux. Or, tout est déjà là. Il y a, comme l'évoquait Florian, le mélange entre l'amour et la mort, avec notamment la présence de ce cabinet érotique extrêmement drôle dans des salles très sombres du parcours, dans les salles les plus sombres même du parcours de l'exposition. Il y a cette Célestine, donc qui est cette maquerelle bleue avec des joues roses, qui est aussi emblématique de ce mélange entre quelque chose d'assez joyeux et puis de très noir. Il y a enfin la vie personnelle de Picasso qui se mélange à sa peinture de manière absolument systématique pendant toute son existence et qui commence là aussi, par exemple, avec la figure de Madeleine. Et puis enfin, ce qui est intéressant de voir, c'est que ces œuvres sont en fait devenues des chefs-d'œuvre, puisque aussi bizarre que cela puisse paraître, elles ont été longtemps négligées. Picasso lui-même disait À John Richardson, il faut oublier tout cela, même si probablement il n'en pensait pas un mot en parlant de, en parlant des périodes, enfin de la période bleue et de la période rose. On a accusé ses toiles de sensiblerie, de sentimentalisme. Et puis il y a un retournement à peu près au milieu des années 50, où tout d'un coup ces toiles deviennent des icônes, où elles sont reproduites par des maisons de lithographie, où elles apparaissent dans des films, dans Jules et Jim par exemple, dans How to Steal a Million. Et puis il y a récemment la bande dessinée de Julie Birman, par exemple, et à ce moment-là, et à partir de ce moment-là, ça devient des chefs-d'œuvre. Mais il est intéressant aussi, au regard des réflexions menées par Laurent Lebon dans l'exposition du musée Picasso, de constater que ces œuvres n'ont pas toujours été des chefs-d'œuvre.
Oui, et puis peut-être qu'on les a aussi à un moment trop vus. Hein. C'est peut-être aussi la raison de cette absence jusqu'à ce jour d'une grande exposition sur les périodes dites bleues et dites roses de Picasso, parce qu'à force justement de les avoir consacrés chefs-d'œuvre et de leur très très grande diffusion, c'était presque un peu vulgaire de s'y intéresser, alors que finalement l'origine des premiers travaux des grands artistes, ça doit toujours nous passionner, Stéphane Correa.
Oui et non.
Voilà, deuxième degré.
Oui et non, parce que moi, c'est pas du tout ce que j'ai ressenti. Ce qui m'a frappé, d'un coup, j'ai été pris d'une révélation derrière un pilier du musée d'Orsay.
C'est beau.
C'était le côté roublard de Picasso qu'on connaît et que moi, qui m'est sauté au visage. J'ai eu une illumination, carrément. J'ai pensé que là, on est vraiment en face d'un grand couple dans l'art moderne. C'est Picasso et Picabia. Un parallélisme total, c'est vraiment amicalement vôtre, c'est-à-dire ils ont des débuts comparables, fulgurants, ils commencent tous les deux très tôt, ils ont un énorme succès très tôt, avec une peinture qui n'est pas la leur, qui est celle de leur père, père au sens prédécesseur. Picabia a cette période impressionniste, dont aujourd'hui on nous dit qu'elle était d'après carte postale, qu'elle est un peu dégradée, etc. Picasso a cette peinture qui, je suis désolé, mais ne peut pas être la sienne. Un jeune homme de 20 ans qui arrive du fin fond de l'Espagne, de Malaga, à Paris, qui a un succès fou, de l'argent, des femmes, cette vie facile qu'on voit effectivement dans ce cabinet érotique, etc., ne fait pas la peinture d'un vieux syphilitique comme Gauguin, d'un type qui va se suicider comme Van Gogh, ou d'un nain dévoré par l'alcoolisme, ravagé par l'alcoolisme, comme tous les autres. Je ne comprends pas, il y a quelque chose qui colle pas. Alors, il y a cet épisode fondateur de la mort de Casagemas, dont on nous fait un truc énorme. Bon, un copain de Picasso assez proche, il arrive à Paris, il partage l'atelier, Picasso repart en Espagne, Casagemas, dans un épisode un peu de délire, tente de tuer sa maîtresse, puis se suicide. Il n'y a pas de quoi non plus en faire 5 ans de période noire.
Qu'est-ce que vous en savez?
Eh bien, moi, je n'y crois pas.
Vous êtes bien péremptoire, d'un coup.
Je n'y crois pas. Et je persiste à penser que comme Picabia va trouver dans le cubisme à travers Udny et ensuite évidemment dans Dada surtout sa voix, effectivement ce qui m'intéresse c'est à la toute fin de l'exposition, dans la dernière salle où Cézanne pointe le bout de son nez, il y a ce paysage de Gossol de 1906 déjà où on voit que, et là effectivement il y a l'amorce du cubisme, il y a l'amorce de quelque chose qui va devenir Picasso, mais ce Picasso avant Picasso, pas plus que Picabia avant Picabia, pour moi n'est au niveau de ce qu'ils vont produire par la suite.
Ah ouais, on n'a pas dit qu'ils étaient au niveau. Enfin, en même temps, les origines, les premiers travaux, qu'est-ce que vous pensez de cette sortie de Stéphane Correa à Florian Guettet?
Alors, sur Casagemas, je crois que c'est Picasso lui-même qui l'a dit. Donc,
c'est pour ça qu'il faut s'en méfier doublement.
Peut-être aussi. Ouais, c'est peut-être vrai aussi.
Mais ce qui est très intéressant quand même, malgré tout, sur ses débuts, au-delà du fait qu'il y a une forme de révérence parmi qu'il est l'héritier quand même de quelque chose, c'est Picasso le Parisien, quoi. C'est Picasso qui emprunte les scènes de vie parisienne, qui va dans les cabarets, qui va voir les prostituées en prison. C'est-à-dire que c'est pas encore c'est pas l'espagnol, le symbole de l'espagnol d'après. C'est-à-dire qu'il c'est un exilé, c'est quelqu'un d'un petit peu timide qui va faire retour à son pays natal après, quoi. Mais là, il y a une forme peut-être d'errant, de curiosité, de protection, c'est-à-dire qu'aussi il se met
d'intégration,
voire d'assimilation. Enfin, on n'est pas très loin de ça, bien sûr. Et il va s'affirmer après. Donc effectivement, c'est toujours plus plaisant de voir un artiste qui s'affirme dans son style, alors que là, on a l'impression qu'il l'emprunte énormément à la fois de style et de sujet. Malgré tout, la ligne reste la ligne, l'intensité de l'empêtement reste l'intensité. C'est vrai que moi, j'étais très touché par la période ocre de la fin, et notamment la géométrisation des volumes dans des sujets très classiques et bateaux comme la coiffure.
On en reste là, malgré les demandes d'Annaëlle Pigeon, mais qui tout à l'heure sera contente d'avoir plus de temps, je vous assure. Picasso bleu et rose, jusqu'au 6 janvier au musée d'Orsay, un catalogue coédité par Orsay et les éditions Azan. Parce qu'il nous reste quand même beaucoup de choses dont on doit parler dans cette émission. Nous allons parler de Mathieu Pernoud, nous allons parler du prix Marcel Duchamp, nous allons parler de Jean-Michel Alberola. Ah, vous voulez plus de temps là, Stéphane Correa, vous voyez ? Faites pas le malin comme ça.
France Culture, la dispute, Arne Laporte.
Suite de cette dispute art plastique en nous rendant au 104 dans le 19e arrondissement de Paris pour l'exposition de Mathieu Pernoud intitulée La Santé, en l'occurrence la prison de la santé, puisque en 2015 cette prison a été démolie pour être reconstruite. Je crois qu'elle rouvre, si je puis dire, ses portes cet automne, si le chantier est à jour. Juste avant que le chantier de destruction ne commence, de démolition, Mathieu Pernoud a visité toutes les cellules, a donc répertorié toutes les inscriptions laissées sur les murs. Stéphane Correa n'y croit pas, visiblement, il va nous expliquer pourquoi. Il a prélevé les photos qu'il y a trouvées, dont certaines étaient encore accrochées dans les cellules. Donc il a photographié, documenté les différentes étapes de la disparition de ce lieu, ou de ce lieu tel qu'il était. Cette exposition au 104, c'est une des façons de restituer ce travail. Pas oublier ce grand interprète. Mais alors Cayenne c'est fini, mais la santé non, parce que la santé s'est retapée, si je puis dire. Stéphane Correa, vous faisiez la moue pendant ma présentation, pourquoi ?
Non, vous avez dit que, moi personnellement je ne crois que ce que je vois, voilà pourquoi. Et là j'ai vu l'exposition de Mathieu Pernoud, à votre invitation Arnaud, je vous en remercie vivement.
Je sens une pointe d'ironie.
Non, c'est une exposition qui est vraiment paradigmatique d'une tendance lourde dans l'art contemporain qui flirte avec le documentaire, au risque parfois de s'y dissoudre. Effectivement, comme vous l'avez dit Arnaud, l'exposition explore en 5 temps la mémoire des détenus qui ont occupé ces 1000 cellules. Je faisais un petit peu la moue parce que finalement tout ce qui est exposé sort en gros d'une dizaine de cellules et compte tenu de la diversité de ce qui est montré, je suis pas sûr que ce soit un vrai travail ethnographique sur les 1000, mais ça c'est mon sentiment, je crois pas grand chose. Il y a deux manières de visiter l'exposition, premier degré et second degré.
D'accord.
Je vais d'abord commencer pour vous être agréable par le premier degré.
Ah non, moi
Arnaud,
je préfère le deuxième moi.
Donc je vous ai dit qu'il y avait 5 temps. Il faut quand même dire aux gens un petit peu ce qu'on va voir. D'abord, on commence par l'architecture même de la prison, donc qui associe le régime pennsylvanien, c'est-à-dire l'isolement, la vision panoptique, et au burnien, le travail de groupe. Donc là, il y a des photographies, une vidéo où on voit l'artiste déambuler dans les couloirs, pénétrer dans une cellule pour prélever effectivement les images qui sont placardées. Dans un deuxième temps, les images effectivement qui ont été laissées par les détenus sur place, qui peuvent être pornographiques, religieuses, articles de presse, etc., mais beaucoup de cartes géographiques. Le relevé des graffitis qui sont inscrit sur un mur, des peintures sauvées de la destruction qui avaient été faites dans le cadre d'un atelier artistique et qui ont été restaurées à la va-vite par Mathieu Pernoud. Et puis, on finit par les ruines de la prison, effectivement, qui vient d'être démolie. Alors, au premier degré, y a pas, de mon point de vue, j'attends vraiment de savoir ce qu'Anaëlle et Florian vont en dire. Pour moi, l'exposition n'est rien de plus que ça. c'est-à-dire rien de plus que ce que je viens de décrire, une exploration systématique d'une réalité que j'avais l'impression de bien connaître avant de venir et que je n'ai pas l'impression de mieux connaître en étant parti. On a déjà vu quand même beaucoup de choses, aussi bien de documentaires que du domaine de la fiction. On pense parfois à un prophète de Jacques Audiard, notamment pour la présence de la Corse et du Maghreb. Mais je pense aussi à d'autres artistes, hein, comme le travail que Jean-Michel Pansin avait fait dans la prison d'Avignon. Donc c'est quand même un terrain qui est très balisé et les formes, les moyens plastiques sont eux aussi extrêmement balisés. Donc moi, ce qui m'a finalement le plus frappé dans cette exposition, c'est que je n'ai rien appris. C'est-à-dire que les détenus s'entourent d'images, hein, bon, donc des images pornographiques, je l'ai dit, mais finalement assez peu. C'est peut-être le choix de l'artiste, mais aussi des logos, des publicités de marques, des signes d'appartenance à des communautés religieuses. La chose peut-être à laquelle on s'attend un peu moins, c'est la présence de ces cartes géographiques, mais qui finalement est très logique parce que c'est en même temps l'extérieur, le monde extérieur, on va dire, mais en même temps son chez-soi mental, puisqu'il y a parfois des cartes de ville, de village, etc. Ce qui est la seule chose un peu surprenante dans ces images, c'est la surreprésentation d'images d'œuvres d'art, de représentations d'œuvres d'art, hein, des maternités, des expositions de la Croix qui peuvent avoir un statut double dans ce cadre, mais aussi Van Gogh, Nattier, Canaletto. Bon, on apprend aussi que l'orthographe n'est pas le point fort des détenus, puisque les graffitis ont été retranscrits tels quels, et puis qu'il y avait des ateliers d'art dans les prisons, mais tout ça, on le savait. Donc finalement, la seule chose un petit peu saillante à ce point de la visite, c'est qu'il y a plus d'art que ce qu'on croit en prison et qu'il est souvent religieux.
Bon, voilà un point de vue très lapidaire de Stéphane Correard. Florian Guettet, Mathieu Pernaud, 104.
Bah, le projet est simple, factuel, autotélique. Ils disent qu'il est, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de surprise, effectivement. Si on connaît un petit peu cet univers-là, que ce soit par l'art ou par des associations, eh bien, effectivement, on va pas forcément être très, très surpris par le contenu de tout ça, ni même par les formes, en fait, qui sont exposées. Hein. Je veux dire, il y a en fait une volonté de neutraliser le point de vue. Donc, ça, pourquoi pas, c'est-à-dire vraiment de se dire je ne me pose pas en moralisateur, je ne viens pas dire non plus, je ne viens pas amener de l'empathie pour ces prisonniers qui de toute façon ne sont pas là et donc la relation ne se joue pas du tout là. Mais c'est vrai qu'on neutralise quand même à côté le projet artistique, quoi. C'est-à-dire que Mathieu Pernaud apparaît dans sa vidéo, mais finalement il serait pas là, ce serait un peu la même chose. Et puis le reste du temps, on a quelque chose de l'ordre de l'anonymat, ce qui pose quand même la question de savoir où est vraiment la teneur créative, en fait. Et on se demande même si c'est finalement pas les prisonniers qui le porte le plus, et notamment au moment des inscriptions. Donc, alors là aussi, j'ai trouvé un peu bizarre la façon dont c'était représenté, puisque donc toutes les inscriptions ne sont pas prises en photo, elles sont retranscrites de manière typographique et placardées sur un mur qui est censé faire couloir pour relier les trois, mais qui est situé à l'extérieur, qui est pour relier les trois salles, mais qui est situé à l'extérieur, en fait. Donc du coup, il y a quelque chose d'un peu de secondarisé, c'est un peu anecdotique, alors que moi, j'ai pris beaucoup de temps à les regarder. Je trouve qu'il y a une sorte de poésie sommaire. On voit bien qu'ils ont du temps, en fait, à réfléchir quand même tout ça. Alors des fois, ça peut être très brut, je pète les plombs, il reste 9 ans, 105 jours, etc. Mais des fois, on a des petites surprises, moi, qui m'ont plutôt touché, quand on dit je vois rouge quand tu vois noir, et puis on se dit oh, c'est très simple, en fait, mais en fait ça peut quand même dire beaucoup plus que ça. Je baise la France jusqu'à ce qu'elle m'aime, mais j'ai trouvé ça assez élégant, bizarrement. Ou au revoir la santé, les fous s'en vont, et ça, j'ai trouvé que c'était une phrase, ça aurait presque dû être j'ai l'impression le titre de l'exposition, ouais. Parce que ça donnait une sorte de tonalité supplémentaire, c'est-à-dire qu'à force d'absence, bah, finalement nous-mêmes on sait pas bien ce avec quoi on est en prise. Donc il y a toutes ces images, effectivement, qui correspondent chacune à une cellule. Donc là, on peut voir que chaque prisonnier, finalement, a ses obsessions, hein. C'est assez monolithique, assez homogène. Bon, il y en a quand même une qui m'a surpris, c'est il y a 40 montres de luxe, 40 modèles différents de montres de luxe dans une seule cellule. Donc je me demande si c'est vraiment le temps qui l'obsède ou l'objet
ou
vraiment
luxe.
Ou le luxe, quoi, l'objet social. Mais d'une façon générale, c'est vrai qu'on reste un petit peu sur la fin quand on sort de là. Ça se fait très très vite, hein. Il faut le dire aussi. Je dis pas que c'est inutile. À la fin, j'ai quand même un petit souci avec ces sortes de peintures reconstituées, c'est-à-dire des peintures de l'atelier de peinture de la prison, qui ont été en fait démolies pendant le déménagement, on va dire, et que Mathieu Pernaud a repris et a raccommodé, on va dire, pour former une sorte de grand de retable, je ne sais quoi. Et ça m'a un petit peu gêné, parce que déjà, je trouvais qu'il y a une surreprésentation quand même au-delà de l'art, de la religiosité, quoi. Hein, franchement, elle est quand même. Oui, mais était-il besoin d'en rajouter porté par par les peintures Sébastien. Puis je trouvais que ça c'était quand même en collusion avec le projet d'Atia sur les blessures et comment on montre la blessure etc, puisque c'est en face des photos de destruction de la prison. Et ce côté un peu salvateur, on va dire, de l'intervention de Mathieu Pernaut, j'en suis pas sûr. Enfin, je vois même pas pourquoi il est intervenu alors que il est en retrait tout le long de son projet, quoi. Donc voilà, il y a des petites incohérences. Si vous n'avez aucune idée sur ce qui se passe en prison, que vous avez 16 ans, allez-y.
Bon, Florian, non, ça s'est fait. Anaëlle Pujat.
On rêve d'un avenir fleuri, mais l'État nous freine, Villepinte. Ça, c'était la phrase que j'ai trouvée la plus réussie dans toutes celles qui sont inscrites en effet sur ce mur. Cette exposition, c'est vrai qu'elle a quelque chose d'un peu sec, mais elle s'inscrit quand même dans l'œuvre de Mathieu Pernaut, qui est un artiste formidable et qui s'est, dans tout son travail, très souvent intéressé à ses marges. Il a fait des projets sur les Roms en Roumanie. Il y a évidemment cette série des Gorgans qu'on a vu à Arles à plusieurs reprises et au Palais de la Porte Dorée l'année dernière, dans l'exposition « Les Monts de Tzigane » dont il était commissaire. Donc, en fait, cette démarche il a fait aussi un projet sur la jungle de Calais en 2009. Donc, en fait, cette démarche d'archéologie, d'archéologue, de monde comme ça, dans lesquels il existe des tensions, c'est quelque chose qui est extrêmement naturel dans son travail. Alors, l'exposition, en fait, et une des deux autres caractéristiques de Mathieu Pernaut, c'est aussi de jouer avec la photographie dans l'espace assez souvent. C'était le cas dans l'exposition des Gorgans à Arles, dans lesquelles, sur chaque mur, il faisait des grandes composition d'images, et en fait la manière dont il montre ces images porte un sens pour ces images. Là, il m'a semblé qu'il jouait avec l'espace, il faut le dire, très difficile du 104, comme si en quelque sorte le film se dépliait dans l'espace, le film d'introduction dont parlait Stéphane, se dépliait dans l'espace, et comme si on le voit dans le film prélever la peau des murs avec un scalpel, et comme si cette peau de la prison de la santé était dépliée dans les différentes cellules, parce que ce sont des cellules que sont les salles du 104 dans lesquelles on rentre et on ressort à l'air libre pour passer d'une salle à l'autre. Il y a aussi ces cartes dont vous parliez qui sont montrées sur des murs et qui sont déchirées au milieu pour, semble-t-il, laisser place au Judas à l'intérieur des cellules, ce qui nous met nous-mêmes dans la position de prisonnier. Donc c'est vrai que l'exposition a quelque chose d'une certaine sécheresse, mais je trouve que sa qualité est aussi d'avoir une dimension fantomatique très forte, qui va avec la fragilité de ces fragments de murs prélevés dont on voit une matérialité très forte, en fait, même si elle est fragile. Ce sont vraiment des écailles de peinture, de magazines qui sont presque incrustées dans la peinture, parfois. Et ces voix qu'on entend, et qui sont des voix silencieuses des prisonniers. Donc en fait, l'exposition a... Je me suis demandé si finalement c'était pas peut-être le lieu qui compliquait un peu la tâche à Mathieu Pernaut et qui alourdissait un peu. Il y a ces gros rideaux noirs qui sont un peu encombrants aussi. Et finalement, dans le livre de l'exposition, tout ça est évacué. Et là, il y a un travail que l'on voit, je trouve, dans sa plénitude et qui me semble un travail tout à fait intéressant.
Alors c'est vrai que le lieu n'est pas simple, mais c'est vrai aussi que moi j'avais aussi envie de dire que ça s'inscrivait dans le travail de Mathieu Pernaut. Alors, on parle des expositions qu'on voit, et pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas Mathieu Pernaut, c'est normal qu'on fasse ces remarques et ces réflexions et ces analyses sur cette exposition La Santé. Mais moi, une série que j'aime beaucoup, c'est s'appelle Les Hurleurs, une série de Mathieu Pernaut qui est photographiée, vous savez, quand il y a des prisons, celles qui sont encore dans les centres-villes, il en reste encore. Il y a toujours des gens un peu en contrebas qui ont des proches dans les cellules et qui essayent de communiquer en parlant très fort, donc quasiment, c'est parfois le cas, en hurlant. Je pense que tous les citadins ont connu ça dans les différentes villes où ça se passe. Et moi, j'avais été très impressionné par ces photographies, cette série qui était vraiment très, là aussi, d'une sobriété totale, où on projette ce que nous, on a, ce qu'on peut se raconter d'histoire. Et là, j'ai l'impression que Voilà, où arriver ces cris, enfin il y a quelque chose de où ces hurlements, et qu'est-ce qui en reste comme trace. Moi je suis assez sensible, je dois dire, à cette sobriété, mais je trouve que le catalogue donc qui est édité par Xavier Barral rend peut-être davantage justice, que la difficulté d'accrochage du 104 ne permet pas vraiment d'explorer, il faudrait presque la faire in situ, l'exposition, ce qui aurait été un peu compliqué. Amel Pijat.
Ce qui est très réussi, c'est le contraste entre cette neutralité et le caractère très viscéral et très individuel en même temps.
Mais je pense que c'est ça,
c'est la qualité du projet.
Ouais. Mais bon, Stéphane Coréard.
Oui, de toute façon, on est d'accord, Mathieu Pernaud vaut beaucoup mieux que ça, il a déjà livré beaucoup mieux. Pour moi, c'est un peu un accident industriel. Le livre est, à mon avis, bien meilleur que l'exposition. On a déjà dit au 104 qu'il pouvait peut-être arrêter de faire des expositions d'art contemporain. Et on ne serait pas nombreux pour le regretter. C'est peut-être un peu méchant de le dire, mais c'est souvent vrai, malheureusement.
Que vous, Stéphane.
Mais notamment après, dans le livre, il est très bien parce qu'il n'y a pas de vidéo. Et la vidéo, je dois dire, non, parce que moi j'ai revu, du coup j'ai refait l'exposition au second degré, et là j'étais quand même plié de rire du début à la fin, parce que cette vidéo est d'un ridicule, excusez-moi, achevé. Je veux dire, il est là, on le voit se promener, une fois il est dans l'escalier, une fois il est dans le couloir, on comprend absolument pas. Il y en a l'impression qu'il cherche l'inspiration, il est là comme une espèce de documentariste en disant, tiens, qu'est-ce qu'il pourrait bien avoir qui m'intéresse là-dedans. Alors, effectivement, à un moment donné, il y a une porte qui lui résiste. Alors il sort un ciseau à bois de la poche, parce qu'il doit être sculpteur. Moi, je croyais qu'il était photographe, mais il a toujours le temps, apparemment, un ciseau à bois dans la poche pour ouvrir une porte, c'est bizarre. Mais bon, vrai, il décolle deux trucs, la porte s'ouvre, et puis là, il y a des images qui littéralement tombent par terre, mais il prend quand même un cutter pour accompagner leur mouvement et faire semblant de les décoller. Enfin, c'est complètement parodique.
Méfions-nous du second degré qui peut être très vite assez terrible dans beaucoup d'expositions, y compris celle que vous aimez, Stéphane Coréard. Dernier mot, Florian Guettet, sur cette exposition de Mathieu Pernaud, 104.
Bah, peut-être que la vidéo est une tentative désespérée de mettre de l'humain aussi à un moment où tout est dévitalisé, quoi. C'est-à-dire que vous parliez des hurleurs, on peut parler des tziganes, on peut parler des migrants, enfin, c'est-à-dire ce sont aussi des moments de vie et des moments de vie dans la mobilité. Là, on est sur l'absence et l'immobilité. Donc, il y a aussi une forme de nouveau terrain à investir ici, et on dirait qu'il n'arrive pas à se résoudre à cette absence. Et donc, moi, la vidéo, je pense qu'elle vient habiter à un moment, à minima, malgré tout, ce lieu-là. Par exemple, les photos aussi à la fin de destruction, on a vraiment les bâtiments de destruction avec des ouvertures, parce que finalement les fenêtres deviennent des grandes portes, etc. Là où il y avait des murs, maintenant il y a des ouvertures. Mais en face, on a tout le matériel qui a été amassé. Et moi, ça m'a rappelé des scènes de mutinerie. Et du coup, là, on pouvait avoir des traces, comme si finalement il y avait quand même, il fallait qu'il y ait du fracas et du mouvement quelque part. Et je pense que Pernaud est bon dans le fracas et que ça manque un petit peu d'explosion.
Bon, peut-être qu'il en parlera demain, parce que figurez-vous que demain, il y a deux enregistrements de masterclass dans cette maison de la radio, au studio 105. Une avec Mathieu Pernaud à 18h, ce sera mené par Aurélie Charron. La deuxième menée par Anaëlle Pijat à 19h30, avec Alain Bublex. Quelques mots sur Alain Bublex.
Alain Bublex, un artiste très singulier, qui a commencé à travailler au début des années 90, et pour qui l'image est au centre de tout, et pourtant ça se voit pas forcément au premier regard.
Ça donne envie. Bon, si vous avez envie d'assister à ces masterclass, vous pouvez évidemment vous inscrire, c'est gratuit, mais il faut s'inscrire via le site maisondelaradio.fr, 18h, Mathieu Pernaud et Aurélie Charron, 19h30, Alain Bublex, avec Anaëlle Pijat. Pour rappel, Mathieu Pernaud, La Santé, c'est jusqu'au 6 janvier au 104 à Paris. Et puis le catalogue est donc édité chez Xavier Barral. C'est le moment du coup de cœur. Le coup de cœur de Stéphane Coréard pour une exposition mystérieuse. Presque secrète, Jean-Michel Alberola, autour de Cosmos 1939 jusqu'au 1er février. Et là, on va dire au musée du Louvre. Donc, on ne doit parler que de ça, normalement.
Ça se voit, absolument, et pourtant, Louvre, je pense qu'on n'a pas assez parlé de cette exposition. C'est pour ça que je l'ai proposée en coup de cœur.
Vous faites bien.
Après sa gigantesque exposition du Palais de Tokyo en 2016, Alberola revient cette fois-ci à Paris en version minuscule, mais à la façon des vies minuscules de Pierre Michon, qui vous sont chers, Arnaud Laporte, c'est-à-dire avec une grande ampleur dans les détails. D'ailleurs, il aime à dire qu'il ne fait que des détails. Je ne fais que ça. Je compte simplement sur l'addition des détails. C'est exactement ce projet de cette exposition. Il investit donc un un lieu minuscule dans un palais majuscule, le Louvre. Il faut pénétrer sous le porche, en face du Pont des Arts, c'est tout de suite à droite. Il y a une guérite, il faut montrer patte blanche. L'entrée est libre et gratuite. Et là, il y a un ascenseur vétuste, un peu entre hôpital public et ex-RDA, qui vous monte jusqu'au centre Dominique Vivant-Denon, où Alberola met en scène un huis clos à quatre personnages. Lui, Jean-Michel Alberola, né en 53, artiste singulier, dont on ne sait pas bien s'il est né au Havre, à Saïda en Algérie ou à Marseille. Un artiste aux multiples ports d'attache. Dominique Vivant-Denon, le grand précurseur de la muséologie, de l'histoire de l'art, de l'égyptologie, père fondateur du Louvre, qui a écrit cette belle phrase « Je n'ai rien étudié parce que cela m'eût ennuyé, mais j'ai beaucoup observé parce que cela m'amusait, ce qui fait que ma vie a été remplie et que j'ai beaucoup joui », ce qui pourrait être la devise de cette pièce à quatre protagonistes. Il y a aussi Georges Salles, un grand conservateur, spécialiste de l'Orient, qui a été un conservateur emblématique du département des arts asiatiques du Louvre. Et puis enfin Walter Benjamin, celui dont qui donne son titre à l'exposition, même si c'est crypté, le philosophe, historien de l'art, critique d'art qui s'est suicidé à Portbou pendant sa fuite du nazisme. Donc on revient toujours au port, puisque Portbou veut dire port de pêcheur en catalan. Il faut savoir que Walter Benjamin est avec Debord, Bob Dylan, Kafka, Elvis Presley, Raymond Roussel, Stevenson, Jean Vincent, Simone Veil, la philosophe, une des personnalités séminales dans l'œuvre d'Alberola, qu'il inspire à rebondissement depuis une trentaine d'années dans un processus mental finalement où j'ai presque retrouvé du Raymond Hinz. Il y a du Raymond Hinz chez Jean-Michel Alberola. Benjamin était un grand lecteur. Voilà pourquoi il est dans ce centre, Dominique Vivant-Denon, au centre de l'exposition d'Alberola, puisque c'est une bibliothèque, ce centre de recherche. Mais c'était pas seulement un grand lecteur, c'était surtout un nouveau lecteur. Il a impulsé une nouvelle manière finalement de lire comme on voyage, lire en sorte comme on sort de chez soi, pour décrypter l'autre. Et Walter Benjamin disait par exemple cette belle phrase encore que je vais citer: « Le texte est une forêt dans laquelle le lecteur est le chasseur, des craquements dans le fourré, l'idée, la proie craintive, la citation, une pièce du tableau de chasse. Il n'est pas donné à chaque lecteur de tomber sur l'idée. » Or en 2000, quand les éditions Payot Rivage ont publié « Je déballe ma bibliothèque » de Walter Benjamin, il y a deux essais qui étaient déjà publiés, mais il y a surtout la liste de ses lectures qu'il tenait année après année, de manière systématique, en numérotant chaque livre qu'il avait lu. Alors les premiers sont perdus jusqu'au 462, mais on a jusqu'à la fin, jusqu'à son départ de Paris pour Portbou, justement, jusqu'au numéro 1712. Et on découvre, comme Alberola, j'ai cité les noms de ses admirations qui sont extrêmement diverses, et ben on retrouve chez Walter Benjamin la même diversité, parce que notamment il lit Kafka au fur et à mesure qu'il est traduit par Alexandre Vialat en français, mais il lit aussi À la recherche du temps perdu au fur et à mesure de leur publication, pour les derniers volumes, mais aussi tout Simenon, tout Agatha Christie, et puis beaucoup de livres finalement de noms familiers aux amateurs d'art, Michel Léris, etc. Et Georges Salles, ce grand conservateur, dont qui donne le prétexte finalement à Alberola de partir sur la piste de la dernière année de lecteur de Walter Benjamin. Il a donc depuis 2 ans patiemment récolté tous les livres lus par Walter Benjamin pendant cette dernière année, qu'il expose. Donc c'est une exposition d'une bibliothèque dans une bibliothèque, il y a une mise en abîme absolument magnifique, et il a retrouvé des livres évidemment d'époque qui sont peut-être ceux que Walter Benjamin a lus, puisque finalement c'est des livres évidemment d'occasion. Il y a 3 vitrines avec tous ces livres, et puis il y a des monochromes verts ponctués de mystérieuses étoiles blanches et d'une phrase de Georges Salles dont le livre avait été lu par Benjamin dans cette dernière année, qui est reprise par Benjamin dans un article sur Georges Salles. Donc il y a une vraie double mise en abîme, on va dire. Et cette phrase, que je vais vous citer de nouveau, c'est « Tout œil est hanté, le nôtre aussi bien que celui des peuplades primitives. Il façonne à chaque instant le monde au schéma de son cosmos. » Et cette phrase pourrait être la devise de Jean-Michel Alberola et la clé peut-être de lecture de toute son œuvre.
On a jusqu'au 1er février pour découvrir cette exposition de Jean-Michel Alberola dans ce centre Dominique Vivant-Denon au Musée du Louvre, donc côté Pont des Arts.
Tout de suite à droite, en rentrant avant d'arriver dans la cour carrée.
Voilà, donc effectivement, il faut le savoir et c'est gratuit.
C'est
rappelons-le.
Gratuit. Absolument.
La dispute, France Culture. Arne Laporte.
Dernière séquence, cette dispute art plastique avec exposition des 4 nominés pour le prix Marcel Duchamp au Centre Pompidou. On connaît le lauréat, Clément Cogitor, ce qui nous permettra peut-être d'autant mieux de débattre sur sa proposition et celle des autres, à savoir Marie Voynier, Tuvan Tran et Mohamed Bourouissa.
Крылья. дальше так будет развиваться, то дело до убийства.
Бери, пожалуйста, камеру. Voilà un petit peu d'extrait de Braguino de Clément Cogitor. Alors Florian Guettet, je crois qu'on peut refaire le match. c'était votre candidat Clément Cogitor. Qu'est-ce que vous pensez
bien content de pas faire partie du jury parce que j'aurais eu du mal à départager les quatre et pas parce que j'ai un coup de cœur pour les quatre. Je crois qu'il y a j'étais un peu décondensé en fait par les propositions.
Alors commençons par le gagnant quand même. Qu'est-ce que c'est?
Alors Clément Cogitor. En fait, il faut dire déjà que les quatre ont tous un rapport à l'image animée. Dans les quatre, il y a ça. Donc Clément Cogitor et Marie Voynier sont ceux qui vraiment insistent le plus là-dessus puisqu'ils présentent un film. Clément Cogitor, c'est un film assez court, et par contre Marie Voynier, c'est un long métrage qui est pas forcément le plus facile parce qu'elle souffre un peu de la comparaison, en tout cas dans ses rythmes d'exposition. Quoi. Clément Cogitor nous présente un film qui est une sorte de montage entre des images qu'il trouve sur des banques de données, qui sont des images plutôt commerciales, aseptisées, qui sont des symptômes de ces représentations contemporaines aujourd'hui. Elles sont plutôt focalisées sur la figure féminine. On a la femme au travail, on a la femme traditionnelle, on a la femme qui pleure, la femme qui rit, la femme érotisée, etc. Et toutes ces images sont mises ensemble autour d'une narration assez compliqué, assez absconde, qu'on a un peu du mal à suivre. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on reste, parce qu'on essaye de comprendre quand même où cette non-linéarité essaye de nous mener quand même. On a des sortes d'éléments symboliques, un peu mythologiques. On a un serpent, on a le récit d'une sorte de traque. On a des messages nihilistes qui n'arrêtent pas d'être assénés. Rien de tout ça n'a jamais eu lieu, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Même des sortes de jeux presque pataphysiques, il faut dresser la liste de tout ce qui a eu lieu. Donc cette incompréhension immédiate, elle est à double tranchant, parce que d'un côté, moi, elle m'a empêché de vraiment rentrer dans ces images. De toute façon, ce sont des images surface sur lesquelles on rebondit plus qu'autre chose. Et de l'autre côté, elles m'ont quand même incité à me poser beaucoup de questions, à essayer de raccommoder quand même les morceaux entre eux. Alors je sais pas si c'est vraiment ça que doit faire une œuvre d'art aujourd'hui, si vraiment elle doit demander à ce que le public fasse l'effort de sa propre narration à ce point. Je trouvais que là c'était vraiment très très appuyé. Et moi j'ai l'impression quand même que l'argument du champion qui a été Clément Cogitor a finalement le mérite de prendre des images existantes et de les déplacer, leur donner un nouveau sens. Je trouve cet argument extrêmement faible. En tout cas, si c'est tout ce qui a motivé le prix, ça me semble pas suffisant.
Allez, regard rapide, mais sur l'œuvre de Clément Cogitor.
Alors je crois pas du tout que ça soit la seule chose qui ait motivé le prix. Je trouve que cette œuvre de Clément Cogitor est tout à fait intéressante et réussie dans sa forme et dans sa forme d'installation, qu'elle cristallise un certain nombre de recherches récentes dans son œuvre. C'est une œuvre qui est assez étonnante parce qu'elle ne ressemble pas au reste de son travail, à Braguino, à Ni le ciel ni la terre, et en même temps, elle s'inscrit dans une cohérence très forte. En fait, c'est un petit théâtre de marionnettes, ce qui est assez intéressant quand on sait que Clément Cogitor a dans son ADN mental, si je puis dire, c'est pas très joli de le dire comme ça, mais en tout cas a été très marqué par un marionnettiste dans une vallée d'Alsace dans son enfance. C'est vraiment un petit théâtre de marionnettes, mais un petit théâtre de marionnettes dans lequel il fait entrer un écran de LED, c'est-à-dire des enseignes de Times Square. Et finalement, c'est une sorte de petit théâtre du monde qui nous app littéralement, qui est extrêmement hypnotisant, avec ces images qui sont faites pour cela, puisque ce sont des images de banques de données dont on voit les numéros. Et je trouve que c'est une œuvre. Et alors, ce qui est surprenant, c'est qu'en fait, c'est une œuvre qui rappelle qui ressemble à d'autres œuvres qu'on voit aujourd'hui. Par exemple, on peut penser à l'œuvre de Ito Steyer, on peut penser à des œuvres de Camille Henrot, mais qui pourtant traduit extrêmement bien l'esprit de ce que fait Clément Cogitor dans son œuvre.
Bon, la troisième voix fera pencher la balance.
Moi, j'aime beaucoup Clément Cogitor. Habituellement, je dois dire que là, j'ai trouvé la proposition effectivement un peu trop simpliste parce que trop redondante entre effectivement les images publicitaires, l'écran qui est un écran publicitaire, la voix off qui est elle-même une voix publicitaire et ce texte dont je n'ai pas trouvé la référence ni l'origine.
Mais c'est lui qui l'a écrit.
voilà, mais qui est en fait quand même un cut-up de discours catastrophistes et d'histoires d'amour un peu foireuses. J'y ai vu comme Annaëlle Pijat, au deuxième degré, une parodie des vidéos de Camille Henrot, et ça m'a fait beaucoup rire. Ouais. Mais je ne pense pas que ce soit la raison pour laquelle il a eu le prix. Effectivement, j'ai un peu comme Florian Guettet, j'aurais eu beaucoup de mal pendant les trois quarts des salles à savoir à qui j'allais décerner le prix Merci Duchamp. Et puis, évidemment, heureusement, Mohamed Bourvissa est arrivé.
Bon, et vous là, enchaînez donc,
ah bah
Stéphane.
Oui, il faut quand même parler de cette installation de Mohamed Bourvissa qui m'a absolument envoûté. J'étais bluffé par cette pièce. Comme dans les dernières propositions de Mohamed Bourvissa, un peu âpre, c'est pas des pièces à séduction immédiate, c'est pas des pièces faciles, d'autant qu'il est servi ou desservi par le fait qu'il parle globalement des mêmes sujets que les autres, mais la grande différence, c'est qu'il en parle de l'intérieur. Il est totalement habité, et à l'image des végétaux qui ponctuent le film, et aussi l'installation, puisqu'il y a des décoctions de millepertuis qui sont comme ça en suspension dans la structure de bois. Le millepertuis, vous savez que ça s'appelle le chasse-sorcière, et c'est un antidépresseur naturel, bon, le chasse-diable. Et comme le disait le grand Bruno Munari, l'arbre, cette explosion infiniment lente d'une graine, et là, en regardant la vidéo, on est dans l'explosion infiniment lente d'une pensée qui se construit, et qui est une pensée totalement intime, qui est intimement liée à l'histoire d'abord de Mohamed Bourvissa, puisqu'il parle du village dont il est originaire. Blida, il parle de Frantz Fanon, il parle de la colonisation, il parle de la torture, il parle d'énormément de sujets extrêmement lourds, mais il en parle vraiment comme un spectateur engagé qui rentre à l'intérieur. Enfin, c'est vraiment dans sa peau, on sent que c'est quelque chose d'extrêmement habité. Pour moi, c'est vraiment du grand art.
Commentaire Annaëlle Pijat sur l'œuvre de Mohamed Bourvissa.
Que la manière dont il a utilisé l'espace est très réussie, et c'est le cas de tous les artistes, et je pense qu'il faut souligner la qualité du commissariat de Marcela Lista, qui à mon avis a su accompagner ces artistes très remarquablement. Si on compare cette proposition de Mohamed Bourvissa à des expositions récentes qu'il a faites, là on est dans quelque chose de vraiment formellement très au point, très maîtrisé. Je serais moins louangeuse sur la vidéo qui tourne sur une sorte dispositif kaléidoscopique au centre d'une sorte d'amphithéâtre en bois blanc qui ressemble à la fois à un échafaudage, à une cabane, à des espaliers aussi. Et je trouve que la dimension fragmentée de son récit, qui inspire en effet quelque chose d'assez poétique, et est en fait un peu trop fragmentée et donc un peu confus.
Enfin, Florian Guettet, sur la proposition de Mohamed Bourvissa, pas le temps pour les regrets, c'est le titre de l'œuvre.
Oui, mais non, si j'avais dû choisir, j'aurais choisi Bourvissa, mais aussi pour l'ensemble de son œuvre, parce que parmi les quatre écositeurs, c'était assez évident presque par rapport à l'année qu'il a eue. Bourvissa, effectivement, je trouve que c'est le seul sur les quatre qui a fait quand même une vraie installation plastique, parce que quand même, Marie Voynier, c'est juste des chaises de cinéma, écositeur, c'est une boîte noire face à un écran, et tu vas en train, oui, à la limite, mais bon, il y a trois muraux, et sculptures et des bris de ruines au milieu. Enfin bon, j'ai l'impression qu'on l'a vu beaucoup. C'est très bien fait, c'est pas le contraire. Mais Bourvissa, c'est vrai qu'on rentre vraiment dans un nouvel univers. Mon seul regret, c'est peut-être qu'on écoute en fait le film au casque, ce qui a tendance à nous isoler, alors qu'on est sur un espace en rond, circulaire, presque démocratique. C'est aussi l'économie du lieu, de l'hôpital, parce qu'en fait, c'est ce sort de structure blanche en bois qu'il y a autour. C'est aussi une structure de jardin, parce qu'on parle énormément de comment finalement on cultive son jardin pour faire œuvre de résilience par rapport à ces traumatisés de guerre et de la colonisation. J'ai juste un doute quand même sur Bourvissa, sur l'introduction de petits dessins animés qui reprennent de l'imagerie médicale. J'ai pas su le rattacher au reste du projet. J'ai trouvé que effectivement l'idée que l'idéologie médicale sert toujours l'idéologie politique et qu'il y a toujours un dialogue entre les deux est juste, mais c'est peut-être pas la peine de l'illustrer.
Ouais, mais il cherche toujours, moi, je trouve, Mohamed Bourvissa. Peut-être que ce qu'on a vu là, ça prendra vraiment sa forme et sa valeur, ou il l'abandonnera dans une autre pièce. Il reste 2 minutes pour parler de deux autres.
Sur Tuvan Tran, qui a fait une très belle pièce à Venise, dont elle reprend un peu des éléments ici, en mettant la résine DVA sur les murs qui laisse ces traces violettes très belles, et puis là des produits chimiques. Mais je pense qu'elle a mis peut-être dans son intervention ici trop d'éléments qui nuisent un peu à la clarté de son discours. Mais elle a quand même un travail extrêmement intéressant qui est visible aussi dans une exposition à la Galerie Serroussi à Paris, et qui est encore ouverte, dans laquelle elle fait un dialogue avec Franz West, et dans lequel elle laisse sur le mur les la résine d'EVA, c'est-à-dire qu'elle inaugure une nouvelle dimension dans cette recherche qui est tout à fait intéressante.
Allez, un mot sur Marie Voynier, Stéphane Goriard ?
Oui, bah, juste pour dire qu'effectivement, je regrette qu'à cause du film de Marie Voynier, qui lui est, dont le son est diffusé sur les haut-parleurs, Mohamed Bourbissa sans doute a dû utiliser des casques. Et en plus, on entend par moment des fragments du film de Marie Voynier, ce qui est vraiment dommage. Moi, personnellement, quand j'ai regardé le film de Marie Voynier, tout le monde dormait. Je me suis endormi aussi. Il faut reconnaître que 82 minutes sur cette forêt dans le sud-ouest du Cameroun, où paraît-il, il y a eu 7 ans de recherche. En fait, la seule chose que j'ai retenue et qui est assez belle, c'est la machette ou la lame de rasoir. On avance dans ce film comme effectivement avec une machette, mais on n'en voit jamais le bout. Et 7 ans de recherche, personnellement, je n'ai rien appris. C'était un peu le syndrome Mathieu Pernaud de la chose.
Bon, un dernier mot, Annaëlle Pigeat, très rapide.
Ne faut-il pas s'interroger sur le choix de Marie Voynier, qui souffre par la taille même de son film, comme le disait Florian, et qui se
elle
trouve dans une
veut,
position un peu compliquée, ce qui est dommage.
C'est elle qui choisit ce qu'elle présente pour cette exposition pour le prix Marcel Duchamp, non ?
C'est vrai.
Non, je pose la question.
Oui, bien sûr. Non, mais je veux dire, tout son travail consiste quand même en des films longs, on
certes.
Le sait. Enfin, voilà.
Non, mais c'est vrai que du coup, ça pose le problème.
C'était plutôt le prix Marcel L'Herbier cette année que le prix Marcel Duchamp.
Qu'est-ce qu'il est drôle, Stéphane Goriard. Vous avez peut-être une place sur Rire et Chanson. Prix Marcel Duchamp, on peut voir ses 4 propositions jusqu'au 31 décembre au Centre Pompidou. Avant de conclure cette émission, le jeu de la dispute avec Sarah Dion qui nous a rejoint. Elle nous rappelle d'abord la question du jeu d'hier au soir et nous donne sa réponse. Sarah.
La question était: quel est le nom du dernier film de Claire Denis dans lequel jouait également Juliette Binoche? Et la réponse était: Un beau soleil intérieur.
Ce soir, cinéma, encore des DVD du film Una Questione Privata des frères Taviani, distribué par Pyramide. Des DVD à gagner en répondant à cette question, Sarah.
Quel film des frères Taviani a remporté la Palme d'Or?
Votre réponse avec vos coordonnées postales à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Toutes les informations sont à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute, un site sur lequel vous pouvez réécouter nos émissions et vous abonner au podcast, ce qui est encore plus simple. Demain, 19h, nous serons au Bel Air, le bar de la Maison de la Radio, pour une dispute consacrée aux séries. Nous serons en compagnie d'Iris Bray, Lucille Como et Mathilde Wagman à notre programme Ad Vitam de Thomas Caillé sur Arte, Homecoming de Sam Esmail sur Amazon et Castle Rock de J.J. Abrams sur Canal+. Il y aura un coup de cœur, celui d'Iris Bray pour The Deuce, la saison 2, en ce moment sur OCS.